Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je vais vous raconter aujourd'hui la vie de Jacob, qui est à la fois l'annonce de la lutte des ennemis de Jésus-Christ contre lui, contre Jésus-Christ, avec la protection que Dieu donne évidemment à son Fils, le Verbe, puisque le Verbe est Dieu et homme. C'est également l'annonce, et même on peut dire un exemplaire, de la lutte du démon contre l'Église, avec la protection extraordinaire de Dieu sur son Église, et c'est également, bien entendu, une annonce de la lutte que nous connaissons aujourd'hui, avec également la protection de Dieu, mais qui va plus loin qu'une protection, comme je vais vous le montrer, qui est une élévation à une grande intimité avec Dieu, qui est une grande préparation à un ciel extraordinaire où nous contemplerons Dieu, si nous sommes fidèles. Dieu fait plus que protéger Jacob, il le forme, il en fait un saint. Et un saint, c'est celui qui, dans toutes les épreuves d'ici-bas, non seulement demeure fidèle, mais découvre la puissance, la bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu, et qui s'enflamme à cause de cela lui-même d'amour pour Dieu et de reconnaissance. Dieu le fait ainsi entrer dans son intimité, ce qui n'aurait pas été possible si l'homme, par les épreuves, ne s'était pas dégagé de conceptions trop humaines, d'attaches au monde d'ici-bas, et s'il n'avait pas fait l'expérience qui lui permet de recevoir pleinement la grâce de Dieu. Nous avons laissé Jacob, qui vient de recevoir la bénédiction de son père, bénédiction extraordinaire puisque c'est la transmission des promesses relatives au Christ, et puis parce que Dieu scelle avec Jacob une alliance d'amitié. Il en fait un saint, et tous les saints sont des intimes de Dieu. Ésaü ne reçoit qu'une bénédiction dans la graisse de la terre, et surtout, son père lui annonce qu'il sera soumis à son frère, et il lui annonce pire que cela, que Ésaü n'acceptera pas cette soumission que Dieu veut, et se révoltera et secouera la domination, le joug de son frère. Ésaü est donc décidé à mettre son frère à mort, comme Caïn envers Abel, sauf que il sait que son père protège Jacob et il attend la mort de son père, ruminant ce qu'il croit être une vengeance qui, en réalité, n'est que de la haine et de la révolte. Rachel, dans sa sagesse, appelle son fils et lui dit « Ne reste pas ici, il faut que tu fuis devant ton frère. Va-t'en donc chez mon frère Laban, ton oncle, là tu seras en sécurité. » Bien sûr, elle ne fait rien sans son mari, et Jacob dit à son fils, « Effectivement, va chez ton oncle, tu y trouveras une femme qui craint Dieu, qui vénère Dieu, et non pas une de ces femmes cananéennes comme ton frère Ésaü en a épousé et qui nous font tant de peine. » Jacob est donc persécuté, mais également lui qui a reçu les promesses part sans rien, et il précisera même plus tard dans une prière qu'il fera à Dieu, « Je n'avais qu'un bâton pour franchir le Jourdain. » Rien d'autre, absolument rien d'autre. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement d'une histoire humaine, mais de l'histoire de l'Église et de notre histoire à nous, puisque cette histoire-là a un sens à la fois prophétique par rapport à l'Église et un sens moral par rapport à nous, les deux étant évidemment joints et superposés. Donc nous fuyons. Nous fuyons devant Ésaü. Nous fuyons devant le monde méchant qui est complice du démon. C'est une expression qui revient très souvent dans la bouche de Mgr Lefebvre, le monde complice du démon, ou le démon et ses complices. Nous fuyons et il nous semble que nous sommes complètement dépourvus d'aide de Dieu. Que va devenir notre vie spirituelle? Qu'allons-nous devenir sans sacrement, avec peu de prêtres, isolés au milieu de ce monde? On nous dit souvent, monsieur l'abbé, comment pouvez-vous avoir raison? Ceux qui vous suivent vont être complètement isolés. Vous leur dites de se méfier de l'Église moderne. Vous leur dites de se méfier de la fraternité Saint-Pie-X qui collabore avec l'Église moderne. Vous leur dites de se méfier de tous ceux qui ont rejoint l'Église moderne, la fraternité Saint-Pierre et les autres. Vous ne pouvez tout de même pas prétendre être le seul à avoir raison, même si vous avez quelques confrères avec vous. Bien, je n'ai pas que quelques confrères, j'ai quand même avec moi quelques évêques. Alors moi j'ai la réponse, parce que je connais l'histoire de Jacob. Jacob, lui, avait la réponse dans la foi, dans l'espérance, qui sont des vertus théologales. Son père lui avait évidemment transmis la foi, son grand-père Abraham encore plus, lui qui a vu non seulement le jour du Christ, mais également la passion du Christ. Mais enfin, une telle épreuve est difficile à porter, et voilà pourquoi, au moment où il s'en va, Jacob bénéficie d'une vision de Dieu, une vision célèbre qui est très importante, c'est l'échelle de Jacob. Il couche à la belle étoile, un soir il prend une pierre comme oreiller, et dès qu'il est endormi, il voit une échelle, dont les pieds sont posés sur la terre, et le sommet de l'échelle repose sur le ciel. Oui, elle repose. C'est pas une échelle comme cela qui est dressée en l'air, qui repose par terre et puis tout en haut reposerait sur rien. Non, elle repose sur le ciel. Vous allez me dire, on peut pas reposer sur le ciel. Mais si, justement, puisqu'il s'agit de quelque chose pour nous faire comprendre une représentation, elle s'appuie sur Dieu tout-puissant, beaucoup plus puissant que les choses de la terre. Sur cette échelle, les anges montent et descendent. Au sens propre, c'est l'avertissement, l'annonce que les anges accompagnent Jacob, c'est pourquoi ils descendent, mais ils remontent. C'est-à-dire que Dieu signifie à Jacob que ses épreuves vont le faire monter vers lui, vont le faire monter dans la sainteté, et que plus il est dépouillé des choses d'ici-bas, plus il sera enrichi des choses divines. Et les anges qui remontent emmènent, si vous voulez, l'esprit de Jacob vers Dieu. Cela, c'est le sens premier. Mais c'est également l'annonce de la descente du Christ avec ses apôtres, précédée de tous les prophètes, suivie de tous les prédicateurs, de tous les évêques, qui tous descendent vers la terre pour la sauver et remontent, font remonter la terre vers Dieu, non pas la terre terrestre, non pas la terre du monde, le monde complice du démon, mais font remonter toutes les âmes fidèles vers Dieu. C'est l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le début d'une grande procession, d'un grand cortège qui monte sans arrêt vers le ciel. Jésus-Christ est à la tête, il est suivi de tous ses fidèles, ceci jusqu'à la fin du monde. Eh bien, cette grande procession avait déjà commencé. Il y avait dans l'Ancien Testament une multitude d'hommes fidèles à commencer par Abraham, Isaac, Jacob, qui suivaient déjà le Christ. Certes, ils ne pourront pas entrer dans le ciel dont la porte est fermée, ils attendront dans le séjour des limbes, qui est un séjour de délices, mais qui n'est pas le ciel. Et puis, il y a une autre signification encore, qui est donnée par saint Benoît, mais à la suite de beaucoup d'autres pères de l'Église, qui est une signification morale, spirituelle. Cette échelle, c'est l'échelle que nous montons, chacun d'entre nous, au milieu des épreuves, grâce aux épreuves, où nous méritons la protection de Dieu qui vient nous chercher et qui nous fait remonter. Saint Benoît dit que les deux montants de l'échelle sont l'âme et le corps, et que les degrés de l'échelle sont les 12 degrés d'humilité, qui sont autant de degrés de sainteté. Et tout en haut se trouve le degré merveilleux de la crainte filiale, c'est-à-dire de cet amour exquis qui ne craint plus qu'une seule chose, c'est de ne pas aimer assez, de ne pas aimer autant que Dieu nous donne d'aimer. Cette crainte filiale, qui n'a rien à voir avec la crainte servile, qui est le couronnement de l'amour. J'avais tout à l'heure dans mon bureau un jeune qui, très souvent le week-end, se rend en famille où il n'a pas la possibilité d'assister à la messe, ni de communier. Il a bien une messe de la Fraternité Saint-Pierre, je crois, à laquelle il aimerait emmener son père, mais il s'est bien rendu compte que s'il emmène son père à la messe et que son père y prend goût, il sera très difficile, après cela, de lui faire monter tout en haut de l'échelle de Jacob. Ce n'est pas les prêtres, hélas, qui n'ont pas vraiment compris quel est l'enjeu de la lutte actuelle, qui l'aideront à monter à faire monter son père en haut de l'échelle de Jacob. Et ce jeune me dit, alors monsieur l'abbé, mais comment vais-je sanctifier le dimanche? Et je lui explique ce qu'est la communion spirituelle. Je lui explique que notre union spirituelle à Dieu est quand même facilement retenue ici-bas, et que lorsque Dieu veut faire monter quelqu'un vers lui, il le dépouille. Il le dépouille non seulement de toute attache au monde, mais il le dépouille également de tout ce qui demeure trop sensible dans la vie chrétienne. Or, vous savez que les sacrements sont des signes sensibles qui donnent la grâce, donc Dieu dépouille des signes sensibles pour mieux libérer la grâce. C'est ce qu'il fait avec les vieillards. Vous avez les vieillards qui s'approchent du ciel, on pourrait croire que Dieu multiplierait la possibilité pour eux de recevoir les sacrements, et c'est l'inverse. Le vieillard est confiné à la maison, quelquefois confiné à l'hôpital, quelquefois il ne peut même pas sortir de son lit. Il reçoit la visite du prêtre une fois de temps en temps, quand c'est possible. Alors est-ce que Dieu abandonne ce vieillard qui est près de la mort? Non, c'est l'inverse. Il le purifie de toute attache non seulement au monde, mais même de toute attache à ce qui est trop sensible dans la vie chrétienne. Ces attaches sensibles étaient bonnes, elles étaient utiles, puisqu'elles facilitent l'accès à la grâce de Dieu. Mais il arrive un moment où il faut une grâce plus pure, plus élevée, une intimité plus grande avec Dieu. Et ce jeune qui est un homme pur et généreux, comme le sont les jeunes quand ils sont purs, ils sont facilement généreux. Ils buvaient mes paroles. Comme un jeune qui découvre que Dieu l'appelle à la vie religieuse est pris d'enthousiasme, il découvrait que Dieu l'appelle, peut-être pas à la vie religieuse, mais à une vie chrétienne plus parfaite. Dieu, qui est en haut de l'échelle, se penche vers Jacob et lui promet de le protéger, il renouvelle sa promesse, évidemment, les promesses qui sont de l'Alliance, et il promet de nouveau sa protection. Fort de cela, Jacob arrive chez son oncle, et là je vais abréger l'histoire. Jacob arrive chez son oncle, près d'un puits, là encore, Je vous ai déjà expliqué la signification du puits, qui est la même que le puits de la Samaritaine, dont nous avons eu la lecture aujourd'hui à la messe, aujourd'hui samedi, et près du puits arrive Rachel. Rachel que, immédiatement, Jacob reconnaît comme une femme, une chrétienne parfaite, comme la femme que Dieu lui destine. Jacob dit alors au père de Rachel qu'il désire épouser sa fille, et Laban, qui est un vrai filou, qui est même un voleur, dont nous découvrirons plus tard qu'il est idolâtre, saisit immédiatement l'occasion, parce qu'il a reconnu également en Jacob un homme pur, droit, courageux. Il saisit immédiatement l'occasion, il dit « Soit, je te donne ma fille, mais tu travailleras 7 ans pour moi. » 7 ans, c'est beaucoup. Jacob accomplit son contrat, il travaille 7 ans, et on fait une grande noce, et le lendemain des noces, il découvre que son oncle l'a trompé et a mis dans son lit non pas Rachel, mais la sœur de Rachel, l'aînée. Alors il se plaint à son oncle, qui lui dit « Écoute, c'est comme ça, si vraiment tu veux Rachel, je te la donnerai dans 8 jours et tu travailleras de nouveau 7 ans pour moi. » Jacob voit là la volonté de Dieu, la pauvre Lia c'est la sœur de Rachel, n'y est pour rien. Certes, elle n'a pas la grâce de sa sœur cadette, Rachel, mais enfin, comme les patriarches ont l'obligation d'avoir plusieurs femmes pour étendre le royaume de Dieu, Jacob accepte de travailler encore 7 ans pour le prix de Rachel. Au bout de 14 ans, il désire s'en aller, mais Laban le retient, cette fois-ci contre salaire, et lui fait des propositions, mais qui sont des propositions qu'il va tout faire pour contourner. C'est une histoire compliquée. Il s'engage à donner à son neveu comme salaire toutes les brebis qui ne seront pas blanches ou noires, mais tachetées, mouchetées, vous voyez, bigarrées. Mais il s'arrange pour le voler. Dieu ne l'entend pas de cette oreille, si je puis dire, protège Jacob, et finalement, il y a beaucoup plus de brebis bigarrées. Alors Laban change le contrat, il lui dit, écoute, pour la prochaine année, tu prendras les brebis blanches ou les brebis noires. Puis Dieu protège encore Jacob, et il y a beaucoup plus de brebis blanches ou de brebis noires à naître. Laban change encore le contrat, et cela 10 fois de suite. Jacob, qui est doux, qui est patient, qui est pacifique, se rend bien compte que là, continuer dans de telles conditions, ce n'est plus la volonté de Dieu. Il est temps qu'il rentre chez son père, et donc il s'enfuit. Il s'enfuit parce que Dieu lui en a donné l'ordre, rentre chez ton père, et que Dieu lui dit, je t'ai enrichi car j'ai bien vu que ton oncle te volait, et c'est moi qui t'ai enrichi en te donnant les brebis à chaque fois qui convenaient. Laban est furieux, part à la poursuite de son neveu Jacob, et Dieu intervient auprès de Laban, lui apparaît et lui dit « Il n'est pas question que tu parles durement à ton neveu. » Laban était prêt à le mettre à mort pratiquement, et puis à récupérer troupeaux, filles et tout le reste. Voici que Dieu lui dit « Non seulement tu ne le toucheras pas, mais tu lui parleras aimablement. » La conversation est tout juste aimable, mais grâce à la patience de Jacob, à sa douceur, finalement, Laban repart apaisé. Faut que je me dépêche, puisque je me suis engagé à pas prêcher trop longtemps. Il reste maintenant Isaü. Eh bien, je vous parlerai la prochaine fois de la rencontre entre Jacob et Isaü. C'est la victoire de l'Église sur ses ennemis, c'est notre victoire à nous, sur les tentations, sur le démon, sur les complices du démon. C'est votre victoire à vous qui m'écoutez et qui cherchez à être fidèle à Dieu dans les épreuves d'aujourd'hui, ce n'est pas une victoire grandiose, majestueuse au son des trompettes, c'est beaucoup mieux que cela, c'est une victoire à la manière de Dieu. C'est celle que promet la Très Sainte Vierge à la Salette, à Fatima, à Lourdes, et dans toutes les apparitions que Dieu a voulu de nos jours, et qui sont la répétition de l'échelle de Jacob et de la prochaine étape que je vous raconterai dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.